La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, témoins et acteurs de l'histoire. De Paris à Bamako, nous partons à la recherche de Seydou Keïta, le photographe.
Au départ, il faisait surtout des photos de visages. Les gens s'asseyaient, d'autres se tenaient debout. Certains avec leur grand boubou, d'autres avec leur femme. Facilement, il a commencé à faire des portraits et ça a marché.
Abdoulaye Keïta est l'un des jeunes frères de Seydou Keïta.
Je crois que la renommée est partie d'un coup. Parce que les gens n'étaient pas habitués à voir leurs photos. Il y a des gens qui venaient de Ségou, 240 km d'ici à l'époque. Des gens qui venaient de Bougni.
De loin?
Non, de très loin, parce que parfois même des gens venaient ici, ne savaient même pas parler Bambara. Le premier président de la République, Modibo Keïta, a été photographié par Seydou ici.
Moi, ce qui m'a intéressé dans les photos de Seydou Keïta, c'est toute une époque. Et notamment cette époque de Modibo Keïta, qui a quand même été une époque formidable.
La photographe Françoise Huguier a traversé les Afriques de Dakar à Djibouti pour écrire sur les traces de l'Afrique fantôme. Et elle est l'initiatrice des rencontres photographiques de Bamako.
Il y avait ce vent de l'indépendance qui faisait qu'il y avait une espèce de liberté et de liberté vestimentaire. Il y avait aussi l'arrivée de la musique afro-cubaine et il y avait des groupes comme ça. Il y avait le groupe des Beatles, alors ils faisaient des réunions et des surprises parties ensemble. Il y avait les Chaussettes Noires, il y avait toutes ces bandes. Et alors ça, cette tradition de groupes de garçons comme ça, c'est une tradition ancienne dont Léris parle dans son livre « L'Afrique fantôme », qui sont des clubs de mecs, qui sont traditionnels et qui servent aussi à l'émancipation des garçons par rapport à la famille. Donc toute l'imagerie de Seydou Keïta et de Malik Sidibé montre toute une époque.
À Bamako, dans les années 50, Malik Sidibé est installé dans le quartier de Bagadadji. Il a 20 ans, l'âge de la jeunesse émancipée qu'il fixe dans les surprises parties. Seydou Keïta, lui, est à Bamako Koura. Le photographe est né vers 1921, il a donc une trentaine d'années, mais sa réputation n'est plus à faire dans un Soudan français où il est l'un des tout premiers maîtres du portrait. D'ailleurs, tout Bamako vient faire la queue devant son studio pour se faire photographier.
Ce qui avait accroché mon œil, c'est ce qui accroche l'œil du monde entier aujourd'hui sur Seydou Keïta. Ce sont des portraits, tout à la fois classiques, mais en même temps immensément modernes, dans la pose, dans la position des mains, c'est totalement unique. Il positionnait les vêtements, il positionnait les bijoux. Il me disait, enfin, Seydou Keïta disait, moi j'ai tellement aimé la photographie que j'ai voulu donner de mes clients la plus belle image.
André Magnin parcourt le continent africain depuis les années 80. Il veut découvrir les artistes. En 1987, il rejoint Jean-Hubert Martin pour créer l'exposition historique « Les magiciens de la Terre », en rupture avec un regard ethnocentré sur l'art. Les 5 continents sont alors représentés. C'est l'année de la chute du mur de Berlin, du massacre de Tiananmen et de la fin de l'apartheid. Et c'est dans ce contexte que l'œuvre de Seydou Keïta est redécouverte par l'Occident au début des années 1990, dans un Mali libéré de la dictature de Moussa Traoré. Dans un Mali où Bamako devient la capitale de la photographie, comme Ouagadougou est celle du cinéma. C'est le défi lancé par Françoise Huguier. Le reporter initie les premières rencontres de Bamako avec Bernard Descamps et prouve à la face du monde que la photographie africaine existe. Flashback sur l'ouverture le 5 décembre 1994.
La Biennale de Bamako, la première biennale, l'inauguration avec le président de la République, Alpha Conaré, donc premier président de la République démocratique du Mali. Et surtout, il y avait les échasses d'Ogon, enfin les danseurs d'Ogon, il y avait sur le fleuve les marionnettes de Marc Allard. Enfin, il y avait tout un spectacle absolument extraordinaire, pas folklorique, qui avait été organisé par le ministère de la Culture. Ce qui me tenait à cœur dans cette première biennale, c'est qu'il y ait des anglophones et des francophones qui se voyaient jamais. C'est très important pour moi, cette rencontre panafricaine.
C'est une histoire qui débute avec un vent de liberté qui s'annonce avec les transitions démocratiques. Au Mali, c'est bien sûr le renversement de la dictature de Moussa Traoré en mars 91 suivi par des élections, les premières démocratiques depuis un certain temps, depuis la première élection de Modibo Keïta à la présidence, donc en 60.
Erika Nimis est historienne de l'Afrique contemporaine, spécialisée dans l'histoire de la photographie en Afrique de l'Ouest. Elle a publié « Photographe de Bamako » aux éditions Revue Noire.
Donc 92, c'est vraiment le point de départ au Mali d'un renouveau qui se traduit donc par le désir de communiquer avec l'extérieur, je dirais, du côté malien, et notamment de ce premier président de la Troisième République, donc Alpha Omar Konaré. Dans son programme, bien sûr, s'inscrivait la Biennale de la photographie. Donc une biennale co-organisée par le Mali, donc son ministère de la Culture et de la Communication, et la France sous l'égide donc d'une association chapeautée par le ministère des Affaires étrangères français et qui s'appelle Afrique en création. Et puis c'est bien sûr Françoise Huguier et aussi un photographe français, Bernard Descamps, qui ont été les premiers commissaires de ce festival de photographie qui était vraiment le premier du genre sur le continent à l'époque. Donc une époque, encore une fois, qui voit plusieurs pays s'émanciper, disons, de la guerre froide. Puis également penser à ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec la libération de Nelson Mandela, les premières élections démocratiques dans ce pays qui donc abolissait l'apartheid. Donc c'est tout ce contexte-là, en fait, qu'il faut avoir en tête quand s'ouvre la première édition des rencontres de Bamako en décembre 1994.
Le système même dans lequel nous vivons évolue, mais la photographie qui est un témoin ne peut pas être arrêtée.
Le photographe ivoirien Doris Aaron Casco est dans le film de Jacques Goldstein, Regard Noir.
Il y a la nouvelle génération qui a des choses à dire et qui accepte de les dire aujourd'hui. Et ces choses-là, il faut qu'on les dise, quoi. Il y en a marre des cartes postales qui embellissent nos villes où on monte des immeubles pour aller dire qu'on les a construits, qu'on a aidé l'Afrique, machin et tout. Il y a deux choses en bas qu'on doit montrer. Parce que l'avènement de toutes ces choses-là engendre une décoloration de la mentalité de l'Africain lui-même. Si bien qu'il sort et perd ses valeurs morales.
Je me rappelle à ce moment-là, Bamako était en ébullition.
Avec Jacques Goldstein, nous visionnons Regard Noir, tourné pendant la première biennale de la photographie africaine à Bamako.
Partout dans tout Bamako, je me rappelle dans l'espèce d'auditorium Amadou Empateba, mais il y avait tout un débat sur les enjeux de la démocratie. Voilà. Et partout, les photographes, les jeunes intellectuels, tout le monde posait la question de la démocratie, tout le monde posait la question de la modernité. Je trouve que le moment de la biennale, pour moi, voilà, c'était un moment passionnant.
En quoi cette première édition des Rencontres de Bamako a marqué un tournant dans la reconnaissance de la photographie continentale? Alors il faut savoir qu'avant les Rencontres de Bamako, bien sûr que ces photographes existaient. Il existe quelque chose, mais si vous voulez, ce quelque chose-là est absolument invisible, et notamment pour un regard occidental qui est davantage centré sur ce qu'on voit à travers la lunette de photographes occidentaux, c'est-à-dire les reporters à l'époque, mais aussi des photographes qui viennent donc se nourrir du continent, des cultures africaines, pour proposer des choses comme, je pense à ce photographe Mapplethorpe ou d'autres photographes américains qui se sont nourris donc de ce qu'on appelle les arts traditionnels. Mais on s'intéresse absolument pas au regard endogène, au regard des photographes africains. Alors, il faut quand même se rendre à l'évidence que dans les pays comme le Mali qui sort d'une période de dictature, rien n'est fait pour valoriser que ce soit le patrimoine ou même ce que font les photographes à l'époque. Le métier n'est pas reconnu, donc c'est le grand problème d'accéder à une certaine reconnaissance. Cela dit, ces photographes ont bien conscience de ce qu'ils font et de l'importance de ce qu'ils font. Et certains donc conservent leurs archives, peut-être en attendant leur heure. Et je pense à Sidou Keïta qui, lui, a eu la très bonne idée de conserver dans sa malle ses archives de sa production arrêtée donc au début des années 60. Donc il y a quand même cette conscience derrière cette absence de reconnaissance pendant un certain temps, cette conscience que cette photographie-là, elle est importante et qu'un jour peut-être elle sera reconnue.
En général, quand je voyage, j'aime bien voir fouiller chez les photographes des pays. Donc là, je suis tombée sur Sédou, dans ses cantines, c'était hyper bien rangé. C'est négatif à la chambre 13-18. Et Malik, dans son studio. Il y avait les planches contact, il y avait les négatifs en 6-6 et en 24-36. Donc, j'avais la matière déjà pour les Maliens.
Alors vous, Françoise Huguier, quelle a été votre réaction lorsqu'on vous a emmené chez Seydou Keïta et que Seydou Keïta a ouvert ses malles?
D'abord, il n'a pas ouvert ses malles très facilement. Bien, quand je suis arrivé chez Seydou Keïta, où il avait fermé son studio. Mais il y avait encore le studio avec la chambre et les éclairages. Mais par contre, lui, il était dans une concession, ce qu'on appelle une concession au Mali, dans une famille. Donc lui, il avait sa chambre. Et moi, il m'a permis de rentrer dans sa chambre. Et là, il y avait des caisses, des cantines en métal. Je lui ai dit, c'est d'où, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et il m'a dit, c'est mes boîtes photos. Alors je lui ai dit, je peux voir? Il m'a dit, reviens demain. Alors j'ai dit, bon. Je suis revenu le lendemain, parce que je suis assez opiniâtre. Et là, il m'a ouvert des boîtes femmes, des boîtes hommes, des boîtes jeunes hommes. Ah non, c'était hyper bien rangé.
C'est donc en 1991 que Françoise Huguier découvre les archives de Seydou Keïta pendant les premiers workshops qu'elle organise avec Bernard Descamps pour des photographes maliens. Et 3 ans plus tard, Seydou Keïta est à l'affiche des premières rencontres photographiques de Bamako.
Bonjour.
Là, on est chez Seydou Keïta et j'arrive chez lui. On avait rendez-vous et je le surprends. Il est en train de réparer sa mobilette. Voilà.
Je m'appelle Seydou Keïta, le photographe au Mali.
Monsieur Mamadou, je suis photographe au Mali.
Et là, il est entouré donc d'un autre collègue photographe et d'un de ses fils qui est apprenti photographe. Et en Afrique, on n'est jamais seul. Et là, c'est vraiment l'expérience, on n'est jamais seul.
Il y a à peu près 40 ans, j'ai fait la photo. Mais j'ai cessé la photographie en 62, à peu près, pour aller travailler pour l'État.
Je ne peux pas croire que vous allez arrêter complètement de faire des photos.
Si.
Vous n'avez jamais fait de nature tellement, vous avez surtout photographié des gens.
Oui, les portraits. Les portraits seulement dans les studios.
Et pourquoi?
Parce que les gens venaient tout le temps me voir. Tout le temps, les gens sont là, nuit et jour, on travaillait. On n'avait pas le temps d'aller faire des reportages en brousse. Il y avait des pères de famille qui viennent me prendre ici pour aller faire des photos de famille.
À cette époque-là, vous faisiez combien de photos par semaine à peu près?
Il faut dire par jour.
Par jour?
Par jour, je pouvais faire 40. Du jour, la nuit.
Ah
ouais.
Oui. Ah oui, il y avait foule alors dans votre studio.
Oui, oui.
Alors vous avez filmé tout Bamako alors?
Ah, mais je vous dis que j'en avais des clichés, des milliers de clichés ici. Les trois quarts est foutu.
Jacques, vous connaissiez vous Seydou Keïta?
Ah, pas du tout, non. Non, non, j'ai découvert Seydou Keïta à Bamako. Je suis arrivé à Bamako avec une très superficielle culture de la photographie africaine. Ce qui m'intéressait justement, c'était de la découvrir. En fait, c'est vraiment un regard complètement neuf sur ces photographes-là.
Il y a toute la culture photographique derrière qui fait qu'on est habitué à voir certaines images. Et en fait, ces images-là, je les retrouve, quoi. Et tout endroit où il y a une vie aussi intense qu'à Bamako, on a envie de faire des clichés tout le temps, quoi. Mais j'ai un peu... Là, les enfants, ils sont très accueillants. Ils n'attendent que ça.
Alors là, c'est Élise Fitte Duval. Elle est antillaise, donc c'est le regard d'un antillais sur l'Afrique. Donc une espèce de jeu de regard qui est intéressant. Mais ce qu'elle dit, c'est la question que toute personne qui va filmer en Afrique se pose. Enfin, en tout cas, si elle réfléchit un peu. C'est comment éviter les clichés naturalistiques. Il n'y a pas un documentaire, il n'y a pas un reportage qui se passe en Afrique, sauf qu'on a les traditionnels, le travelling sur le marché, plan des gens qui portent quelque chose sur leur tête, etc. On peut s'interroger sur cette espèce de permanence de regard sur l'Afrique. Et ça occulte, en fait, une grande partie de tout ce qui est modernité qui est à l'œuvre en Afrique. Mais bon, et ça va être un des enjeux de cette biennale, d'ailleurs. Les jeunes photographes africains vont s'opposer à une espèce de regard naturaliste sur l'Afrique. Voilà.
Et ça a été la première fois, donc, effectivement, qu'on voyait les photos de Seydou Keïta. Et pour Malick Sidi Bé, quand on a fait la première biennale, j'ai tenu à ce qu'il soit exposé. Donc on a fait des tirages, on les a fait en France. Et là, c'était très émouvant, parce que Malick, c'est la première fois qu'il voyait des grands tirages. Et j'ai choisi les tirages avec lui. Hein. Et il pleurait presque, il disait « Jamais j'aurais imaginé ça ». Ça, ça m'a fait extrêmement plaisir. Quoi. Donc maintenant, ils sont partis pour des grandes aventures, avec surtout le travail de Magnin, qui a fait un travail formidable sur Seydou Keïta et Malick Sidibé.
J'allais vous dire que ça n'est pas moi qui ai découvert Keïta, ni Françoise Huguet, ce sont les Maliens eux-mêmes.
Les rencontres de Bamako ont lieu en décembre 1994, juste après la première exposition personnelle de Seydou Keïta à la Fondation Cartier à Paris, car André Magnin, lui aussi, avait repéré Seydou Keïta.
Donc voilà, je suis à New York, il y a une exposition qui s'appelle Africa Explores, organisée par Susan Vogel, au Center for African Art, et qui mêle de l'art contemporain, de l'art traditionnel, de l'art classique, un peu de photographie, voilà. Et dans cette exposition, j'étais avec M. Johnny Pigozzi, pour lequel j'ai fait sa collection pendant 20 ans, qui est lui-même un grand photographe, et nous repérons quelques vintage avec un cartel sur lequel est inscrit « Photographe anonyme, années 50, Bamako, Mali ». Bien.
Il y a quand même une indication de ville et de pays.
Oui, parce que je pense que Susan Vogel avait dû obtenir ses photographies à Bamako dans les années 70, semble-t-il, et donc ça, elle s'en souvenait. Et donc, en voyant ces photos, avec l'expérience que j'avais de l'Afrique, je me suis dit, et j'ai dit à Johnny Pigozzi, je vais à Bamako, et s'il est vivant, je vais le trouver. Alors, on reprend où ?
On est
Bamako, devant l'hôtel. Voilà. Devant l'hôtel, je remarque trois voitures garées qui attendent un hypothétique client. Puis je choisis un chauffeur. Et de faire comprendre qu'il n'y connaît rien à la photographie, mais il s'avère qu'à Bamako, il y a encore un personnage qui est toujours devant son studio, qui répare les appareils photo. Bon. Alors, il me conduit chez Malick Sidibé, et je ne sais pas encore qui c'est. Et donc, je montre à ce monsieur qui répare des appareils photos sur une petite table devant son atelier les photocopies des vintage présentées à l'exposition Africa Explores. Et donc, ça, il me dit, c'est pour Keïta. Ça signifie, ce sont les photos de Keïta. Et je lui dis, toujours vivant, il me dit, oui, il habite à la côté de la prison centrale. Pouvez-vous me le présenter ? Oui. Malick Sidibé me conduit dans la concession familiale de Seydou Keïta. Et quand j'arrive en 91... Je tombe sur un homme, droit comme un i, très, très élégant, très plutôt distant, pas du tout affable. Et il me dit, mais vous avez fait tous ces kilomètres pour me trouver ? Ben, je dis, bah oui, il était très fier. Et donc, grâce à ça, il m'a permis de consulter ses archives. Il avait tous ses négatifs qui étaient entreposés dans une malle bleue, métallique, à l'intérieur de laquelle il y avait une protection en aluminium qui les protège donc des grandes chaleurs, de l'humidité, et donc les négatifs étaient tous en parfait état, empilés. Donc toute son œuvre était là de 1948 à la fermeture de son studio en 61-62. Et donc ça m'a pris 3 heures pour retrouver Seydou Keïta, qui était l'auteur de ces tirages crédités photographe anonyme Bamako Mali années 50. Voilà.
Suite de la marche du monde à la recherche de Seydou Keïta, le grand photographe malien. De 1948 à 1960, le maître du portrait a réalisé plusieurs milliers de photographies dans son studio à Bamako Koura.
Je m'appelle Abdoulaye Keïta, j'ai 73 ans. Et je suis le jeune frère, l'un des jeunes frères de Seydou Keïta. Nous nous trouvons à Bamako Koura, dans la famille Seydou Keïta. C'est là où il est né, où il a grandi, tout ça. C'est ici qu'il a commencé la photographie. Quand il avait besoin de faire sa photographie, il était obligé de faire le rideau, de mettre le rideau derrière. Donc nous, les deux jeunes, le temps qu'il fasse sa photo, c'est nous qui tenions les rideaux.
Une fois le rideau installé, Seydou Keïta positionne sa clientèle. Il oriente les visages, capte les regards, prête des vestes ou des chapeaux branchés. Pour 300 ou 500 francs CFA, tout Bamako peut poser à côté du poste de radio, sur une Vespa ou devant la Versailles Simca de Seydou Keïta. Des accessoires modernes, symboles d'émancipation et de liberté. Au Soudan français, la photographie est un art nouveau et au Mali, Seydou Keïta est un pionnier.
Bon, les débuts dont je me souviens, on ne peut même pas dire qu'il y avait un studio. Il y avait une cour, et à l'intérieur de cette cour-là, il faisait ses photos. Et là où était le studio était l'endroit où il faisait le tirage, le développement et le tirage des photos. Dans la maison familiale, toujours. Nous, les garçons, on était tous réunis, on dormait dans le studio. Donc, à la fois, on était en train de dormir et on était les gardiens du studio.
Seydou Keïta émerge en tant que photographe à une époque où il existe déjà en Afrique de nombreux praticiens, à Accra ou bien à Lagos, donc des studios ont ouvert très tôt. Au Mali, c'est vrai que le contexte est différent. Nous sommes dans un pays un peu en retrait de l'effervescence des capitales côtières. Je pense aussi à Dakar.
Erika Nimis, historienne de l'Afrique contemporaine.
Au Mali, l'histoire de la photographie de studio, elle démarre vraiment en 1935. On a bien sûr, avant cette date, des photographes présents à Bamako et dans certains endroits de ce pays. Mais cette photographie, elle est vraiment pratiquée pour un petit nombre. C'est essentiellement les élites coloniales et puis quelques Maliens. Mais c'est quand même, à cette époque, donc dans l'entre-deux-guerres, encore un médium qui est très peu accessible à l'ensemble des Maliens. Après la Seconde Guerre mondiale, on vit une certaine effervescence, une accélération des événements. Et Seydou Keïta donc commence son activité dans ce contexte d'effervescence dans Bamako, qui revit, qui voit une jeunesse aussi s'émanciper. Il photographie en quelque sorte cette société en voie d'émancipation, en voie de gagner son indépendance.
Bon, mon père est allé voir les membres de sa famille qui habitaient au Sénégal à l'époque. Quand il a été au Sénégal, il a payé un appareil photo de l'époque. Et lorsqu'il est venu, Seydou a vu ça, Seydou a dit « Ah, mon père, moi, je veux cet appareil-là. » Il lui a dit « Non, est-ce que tu sais ce que c'est ?» Il dit « Oui, tu m'as dit que c'était pour faire des photos. Donc, moi, je veux ça. » Mais à l'époque, Seydou n'était pas photographe, il était menuisier. Un très bon menuisier.
Le premier appareil photo de Seydou Keïta est un Kodak Brownie. Seydou a environ 14 ans et nous sommes en 1935.
35, c'est aussi l'ouverture à Bamako du premier magasin de photographie digne de ce nom, qui a pignon sur rue et qui est tenu par un Français qui s'appelle Pierre Garnier. Et c'est dans ce magasin que vont se rencontrer les premiers photographes soudanais à l'époque, qui ont fait l'histoire ensuite de la photographie contemporaine malienne, et notamment Seydou Keïta, mais aussi Muntaga, Adama Kouyaté, qui s'est fait connaître notamment quand il a ouvert son studio à Ségou, Félix Diallo, premier photographe de Kita, dans la première région du Mali. Donc plein de photographes qui sont des contemporains, qui ont évolué à la même époque que Seydou Keïta, et qui font donc l'histoire photographique de Bamako et du Mali.
Et à l'époque, il y avait un autre monsieur qui était ici en location, qui s'appelle M. Muntaka Dambélé, qui était instituteur. Et en même temps, il faisait des photos des régions où on l'affectait pour enseigner. Et Muntaka lui a appris à faire le développement des pellicules et le tirage des photos.
Muntaka Dambélé, qui était un ami, suite à son séjour forcé en France dans les années 40, pendant la Seconde Guerre mondiale, il était simplement tirailleur, a acquis du matériel, et c'est lui le premier qui a fait importer un agrandisseur, un Imperator, qui est un agrandisseur tout en bois, qui est, comment dire, adapté aux conditions climatiques des pays tropicaux. Muntaka donc aurait permis à Seydou Keïta, qui lui-même se présente comme un photographe autodidacte, d'accéder à plus de connaissances techniques. Pour ce qui est aussi de Muntaka, donc on a très peu d'informations sur ses archives, mais il est clair qu'il a vraiment été incontournable dans l'histoire des précurseurs de la photographie malienne, donc dès les années 30.
Alors en effet, de nombreux chercheurs, anthropologues, conservateurs, spécialistes de l'Afrique et tout ce que vous voulez, me disent « André, mais des Séduketa, il y en a partout. Il y a énormément de studiotistes. À Bamako même, il y en a une bonne dizaine, mais qui n'ont pas la puissance, l'invention, la beauté d'un Séduketa. Il n'y a pas. »
André Magnin est marchand d'art, ancien directeur artistique de la collection d'art contemporain africain de Jean Pigozzi. Il a révélé l'œuvre de Seydou Keïta en sélectionnant 921 clichés afin d'effectuer des tirages argentiques. De Tokyo à New York, en passant par Paris, André Magnin est à l'origine du succès international du photographe malien.
J'ai interrogé Seydou Keïta. Aurait-il eu des livres de photos? Aurait-il vu des images? Jamais. Tant et si bien que Seydou Keïta n'a jamais eu d'autres livres dans ses mains que le catalogue Manu France et des Trois Suisses, où il n'y avait pas de photos, mais des dessins. Par contre, il y a un grand photographe qui s'appelle Fortier, qui est un Français, qui a sillonné l'Afrique, qui a vécu en faisant des cartes postales. Alors, il y a des magasins dans toutes les capitales qui vendent du papier photographique, qui vendent des appareils photographiques, où on peut se faire tirer le portrait. Et donc, Fortier déposait ses cartes postales, noir et blanc, dans ces magasins, des images qui ne sont pas si éloignées de ce qu'a pu faire Keïta. Alors, il est possible qu'il ait pu voir des cartes postales de Fortier. Seydou Keïta m'a toujours affirmé qu'il n'avait appris la photographie de personne. Parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques là autour. On a dit que c'était Muntaga qui l'avait formé. Tout au plus, Muntaga lui aurait enseigné les rudiments du tirage. Voilà. Mais Seydou Keïta refusait qu'il ait pu être influencé par qui que ce soit, ni même qu'il ait appris la photographie par qui que ce soit. Voilà.
Il est clair que pour les personnes qui ont approché son œuvre, les premières personnes, et je pense notamment à André Magnin ou à Françoise Huguier, leur regard s'est surtout porté sur l'esthétique des portraits de Seydou Keïta, parce que son œuvre est très singulière d'une certaine manière, et surtout, elle a cette chance, cette particularité d'avoir été bien conservée. Ce qui est sûr, c'est que cela a permis de vraiment connaître le photographe lui-même. Mais moi, je m'interroge toujours sur ce qu'on ne voit pas et ce qu'on ne verra jamais. Et je me dis qu'on ne sait pas finalement si on se place d'un point de vue historique et qu'on prend l'ensemble, disons qu'on essaie de contextualiser tout ça, est-ce que vraiment Seydou Keïta a un regard particulier à son époque? Si on doit le comparer avec la génération des photographes qui ont évolué à la même époque, je n'en suis pas certaine.
Et vous dites, Eric Animis, que la difficulté justement, c'est que Seydou Keïta, lui, a conservé ses négatifs, mais qu'au fond, trop peu d'archives existent sur le travail photographique des autres photographes de quartier contemporains de Seydou Keïta. C'est ça qui est difficile à mesurer.
Effectivement, trop peu d'archives existent. J'en veux pour preuve le cas de Muntaga, Muntaga Dembélé ou Muntaga Kouyaté. On a seulement quelques traces de sa production. Et ça, c'est un peu effacé parce que c'est la volonté aussi d'agents d'art, de collectionneurs, de montrer que Seydou Keïta est une figure unique. Et cela sert un propos qui est celui du monde des collections, du monde de l'art, du marché de l'art, et qui efface un peu, je dirais, toute la complexité de la chose. Donc moi, j'aurais tendance à être plus nuancée en parlant du style de Seydou Keïta.
La marche du monde à la recherche de Seydou Keïta, célèbre photographe dans les années 50 au Soudan français, où il a su capter et mettre en scène la fierté de ses congénères. Des jeunes urbains, mais aussi des familles, des femmes et des hommes ambiancés par l'ère des indépendances, synonyme alors de liberté, de modernité. Redécouvert au début des années 90 par Françoise Huguier et André Magnin, les photographies en noir et blanc de Seydou Keïta ont fait le tour du monde. 5 ans après sa mort, en 2011 à Paris, le Grand Palais lui consacre une grande exposition monographique à travers plus de 200 photos choisies par Yves au Petit Allo et Elisabeth Whitelaw. Elisabeth Whitelaw a succédé d'ailleurs à André Magnin pour diriger la collection d'art contemporain africain de Jean Pigozzi pour le fonds Seydou Keïta. Des photos vintage, d'époque, de petit format, mais aussi des grands tirages argentiques modernes, autant de clichés sélectionnés à l'origine par André Magnin.
À vrai dire, il y a des photographies qui sont presque immédiatement belles. Il n'y a pas besoin d'avoir lu 500 livres, d'avoir des références invraisemblables pour voir la beauté d'une image, n'est-ce pas ? Et c'est ce qui fait parfois la force d'artistes africains, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont écrit une histoire en toute liberté, en dehors de notre propre histoire, de l'histoire occidentale, en regard de l'art. Et donc, dans l'œuvre de Keïta, si vous voulez, c'est sûr que lorsque j'ai vu tous les négatifs, un à un, j'ai repéré quelques images qui m'ont paru tout de suite extraordinaires. Alors vous avez l'odalisque, par exemple, ça c'est sans doute le chef-d'œuvre. C'est cette femme allongée, la main posée comme ça sur sa joue, les plis de sa robe, la position de l'autre main, enfin, c'est un chef-d'œuvre. Et vous avez aussi l'homme à la fleur, c'est un homme. Alors on a entendu dire longtemps que c'était l'autoportrait de Sédou Keïta. Moi, je sais bien que ce n'était pas l'autoportrait de Sédou Keïta. Et Sédou Keïta, évidemment, a montré en buste cet homme avec des grosses lunettes qui n'avaient même pas de verre, qui étaient prêtées par Sédou Keïta, et une fleur en plastique ou en papier dans la main. C'est une merveille. Et ce n'est pas du tout un autoportrait, c'est le portrait de M. Sissoko, un handicapé. Vous avez aussi cet homme qui fait 2 mètres de haut, qu'on appelle à Bamako le géant. Et qui porte un tout petit bébé. Enfin, le bébé paraît tout petit parce que cet homme est un géant. Et donc, il y a quelque chose de peut-être de drôle là-dedans, mais au-delà de la drôlerie ou de l'anecdote, la photo devient simplement sublime, quoi. Keïta avait tout vu. Voilà. Vous avez aussi ce qu'on appelle les co-épouses. Il y a deux femmes qui ont le même boubou, qui se ressemblent, qui sont belles toutes les deux, qui sont des co-épouses. Sur un fond, si vous voulez, qui ressemble étonnamment aux robes des femmes. Et vous avez comme ça ces deux têtes qui sortent de cette image, alors qu'elles ont un boubou et un fond qui se marient admirablement. Et tout ça, ça c'est l'œil, l'intuition de Sédou Keïta. On est ébloui par ces images.
Alors vous, Françoise Huguier, vous avez décidé de faire à votre tour le portrait du portraitiste. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre photo de Sédou Keïta?
Alors, j'ai fait un plagiat de Sédou Keïta, hein, carrément. Donc, c'est chez moi à Paris. Donc, j'ai dit, Sédou, tu mets ton plus beau boubou, le plus beau brodé, tout ça. Tu viens à la maison. Donc, j'ai installé, je l'ai fait asseoir. Et je lui ai mis une fleur en plastique, qui est une tulipe bleue à la main. En écho de ce portrait d'un homme qui a aussi une fleur à la main. Donc c'était un écho, quoi. C'était un plagiat. Et derrière, je lui ai mis un batik indonésien. Ben oui, ça c'est la petite marque Françoise Huguier. Voilà.
Et ce grand tirage, on va pouvoir le voir.
Tout à fait, il sera dans l'exposition. Et les autres photos qui viennent de ma collection, c'est des planches contact, des 13-18, donc des négatifs qui sont absolument sublimes. On voit des femmes et des hommes en boubou, le caftan, et il y a la camisole. La camisole, c'est plutôt une mode influencée un peu à l'occidental.
Un chemisier,
avec volant, et un peu décolleté.
Quand j'ai découvert les photos, je me suis trouvée belle. Ce sont les plus belles photos que j'ai de moi. Jamais personne ne m'a aussi bien pris en photo que Sédou Keïta.
À la recherche de Sédou Keïta, le photographe dans la marche du monde, nous avons pu recueillir le témoignage d'une ancienne cliente de Sédou Keïta. Elle s'appelle Céline Solignac, elle est scénariste et réalisatrice. Mais à l'époque, elle est une toute jeune française, en quête d'ailleurs, qui n'a alors aucune idée de la réputation du maître du portrait.
Alors on est en 1998, je pars à Bamako avec une amie, Fatou, et c'est la première fois que je pars en Afrique, c'est la première fois que je prends l'avion. Donc j'avais envie d'aller au zoo, j'avais envie d'aller sur le marché, voir les tissus africains, voir les sculptures, et je vois sur internet qu'il y a un photographe de quartier qui s'appelle Sédou Keïta, et je découvre une photo d'une femme en noir et blanc, que je trouve très belle, et je me dis, bah tiens, moi aussi, j'aimerais bien me faire photographier, ça serait un très très beau souvenir de mon voyage.
Et devant nous, ces fameuses photos, ces fameux tirages que vous avez ramenés de Bamako. Et quand on les retourne, d'ailleurs, ils sont tamponnés et signés. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit derrière ?
Alors, il y a écrit Seydou Keïta, photographe à Bamako Koura, face à la prison civile de Bamako. Et elles sont datées du 28 août 1998 et signées Seydou Keïta.
Donc des photos en noir et blanc. Comment Seydou Keïta s'y prend-il pour vous photographier ?
Je me souviens qu'il a fait venir un jeune homme, qui était son fils, pour poser une tenture bleue et noire. Et il a cherché le soleil parce que c'est la seule source de lumière. Et pendant tout le temps de la pose, Lamine, son fils, a tenu un bout de la tenture. Ensuite, Seydou Keïta est allé chercher une chaise d'école. Et il m'a proposé d'aller me changer dans son petit atelier. Et donc je suis revenue avec mon pagne et il m'a proposé de m'asseoir sur cette chaise d'école. Et moi j'étais assez surprise et un peu déçue parce que je me disais mais pourquoi une chaise d'école, c'est pas très beau. Puis bon, ça me rappelle un peu mon quotidien. Et je me suis vraiment posé la question de cette chaise, mais bon, j'ai pas, déjà on le dérangeait. Il était assez âgé, je me disais bien que peut-être qu'il n'était plus en activité et je n'osais pas lui dire. Donc je le laisse faire et il me propose de m'asseoir. Et là, c'est assez surprenant parce qu'il commence à me manipuler un peu comme un pantin en bois. La pose est très longue et je sens bien qu'il a la volonté de maîtriser tout ce que je peux laisser paraître. C'est-à-dire qu'il me met en place. Il positionne mes bras, il positionne mes doigts, il arrange mes cheveux, il positionne mes pieds. Et il a aussi le souhait d'orienter mon regard. Donc il me demande de suivre du regard son index. Et il écarte aussi son pouce et son index devant moi pour agrandir ou diminuer mon sourire. Puisqu'il veut aussi maîtriser ma manière de sourire, que ça soit le plus joli possible, le plus fin possible. Et moi, j'ai très chaud, ça commence à être très long, je suis sur une chaise appuyée, mais ce n'est pas naturel du tout, puisque je ne peux plus bouger et j'attends. D'un seul coup, il se recule et il prend son appareil photo et il appuie une fois sur le déclencheur. Et il me dit, c'est fini. Et moi, là, je suis hyper déçue. Moi, cette séance, elle m'a marquée parce que c'est la première fois que je posais pour un photographe. C'est pas du tout dans mes habitudes de me faire prendre en photo, mais c'est la première fois que je posais et j'avais des références françaises, occidentales de la pose. C'est-à-dire que pour moi, j'allais bouger devant un photographe qui allait prendre 150 photos, qui allait en choisir quelques-unes et puis me donner les meilleures possibles. Et j'ai découvert une autre façon de photographier. J'ai découvert la pose, la minutie. J'ai le sentiment que Seydou Keïta m'a pris en photo comme un peintre pourrait peindre un modèle. C'est vraiment ce sentiment qui me reste. Et je n'ai pas reconnu tout le travail à ce moment-là.
Donc effectivement, vous aviez arrêté quelque chose. Et est-ce qu'il y a des choses que vous comprenez, qui vous avaient échappé au moment de cette fameuse séance de pose ?
Je découvre la manière dont il prenait en photo les habitants de Bamako. C'est-à-dire qu'effectivement, il utilisait des tentures, il utilisait des objets symboliques. Et je découvre enfin pourquoi il m'a assise sur une chaise d'école. Car à l'époque, j'étais professeur. Et pour lui, la chaise d'école était le symbole de ma profession. Et en fait, c'était pour lui la manière de montrer ma position sociale. Ce que je n'avais pas du tout compris à l'époque et que j'ai redécouvert quasiment 10 ans plus tard.
Lorsque Seydou Keïta réalise les portraits de Céline Solignac en 1998, son studio est fermé depuis bien longtemps, mais il possède toujours son appareil à chambre et lui vend plusieurs tirages vintage. Des photographies de 13 cm sur 18 en argentique. De nombreux vintage sont d'ailleurs montrés au Grand Palais. Ils contrastent avec les tirages argentiques grands et modernes.
Ce que je vois comme nouveauté, et ça c'est tout à fait formidable, c'est qu'on a accès à quelques tirages vintage. Donc on voit tout de suite la différence hein, d'ailleurs entre ces formats un peu plus grands, très contrastés, de photographies de collection, hein, de la collection Pigozzi notamment. C'est le Sedu Keita réapproprié donc, par le monde des collectionneurs, le monde des institutions muséales, des galeries occidentales. Et puis le Sedu Keita, celui qui était photographe dans son quartier de Bamako Koura. Donc ces petits formats, hein, des formats 9-13, 13-18, qu'on insère dans des albums photos, qu'on affiche sur des murs. Et là, on a très peu d'informations sur cette réalité-là. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on soit beaucoup plus ouvert et concerné et sensible à cette histoire, le versant malien, je dirais, de cette histoire photographique. Et ce versant malien, c'est bien sûr à travers les témoignages des contemporains de Sedu Keita, mais également à travers un vrai travail de valorisation des archives photographiques du Mali, qu'on va pouvoir vraiment restituer cette histoire, ce versant malien.
La photo, c'est quelque chose, hein. Ah ouais. J'ai photographié beaucoup de véhicules, hein, beaucoup.
Et ça, c'était quelqu'un parce qu'il était fier de sa voiture.
Oui, il est venu, effectivement, oui, c'est fait la photographie.
Il a voulu garder le souvenir de sa voiture.
Oui, oui.
Elle est belle, hein.
Oui, oui.
Les voix du photographe Sedu Keita et de Jacques Goldstein, réalisateur de Regard Noir.
Au Mali, font de belles images.
Et vous travaillez, vous avez travaillé comment? Vous avez travaillé l'appareil à la main ou vous utilisez un pied?
Oui, à la main, pas à pied. Lorsque je me suis fait payer une chambre, maintenant j'ai payé un trépied. Alors j'ai travaillé avec ça.
Et qu'est-ce que vous préférez, le pied ou la main?
Le pied avec... Les appareils chambres, oui. Sans quoi avec le transipose là, ça on le fait à la main. Bon, c'est ici mon studio, le lieu où on fait la photo dedans. Ici c'était la salle de réception. Il y a jusqu'ici des matériels dedans.
Pour moi, Sedu Keita représentait justement l'époque de la fonction sociale bien, bien précise de la photographie, qui est tenir l'acronyme de la mémoire d'une famille. Et c'est un rôle qu'il a rempli de façon absolument exceptionnelle. Il avait le talent de la mise en scène, de la compréhension des gens qu'il allait filmer, la façon de les magnifier, et il l'a très bien fait, d'attraper ce qui est... un trait saillant dans une personnalité. Enfin, c'est tout l'art du portrait. Hein. C'est vraiment un métier qui est difficile. Et il faut avoir des notions de psychologie assez avancées. Il faut aimer les gens. Et je pense que Sedu Keita, il avait tout à fait ces qualités-là, à un degré même, à un très haut degré.
En réalité, je crois que ce qui intéressait chez nous surtout, c'était la personne. La personne était plus importante que tous les artifices qui pouvaient accompagner cette personne. Je crois qu'avec la photo, lui-même a découvert quelque chose. Il a découvert qu'il existait un monde nouveau par rapport à l'éducation et aux habitudes qu'il avait. Bon, la photo a ouvert en lui un besoin, je crois, une soif de rencontrer des gens différents. Parce que de la manière qu'il se comportait avec les gens, je me disais que, ah, peut-être qu'il a fait ça pour ça. Mais en réalité, je n'ai jamais discuté profondément un jour avec lui pour savoir ce que... Parce que, bon, en cette période-là, vous savez, notre éducation était très rigoureuse. On ne pouvait pas se permettre de poser des questions comme ça à un aîné, non.
Ce que je peux affirmer, c'est que Sedu Keita n'a jamais voulu entendre qu'il ait pu être influencé par qui que ce soit. Mais ça, il me l'a dit répété. Là, il était ferme. Donc, on n'a pas de raison de douter de sa bonne foi. Et en effet, quand vous voyez ces photographies, c'est d'une telle beauté, d'une telle invention, d'une telle précision qu'il n'a pas pu avoir des milliers de photos qu'il est influencé. C'est pas possible. Donc, c'est le style Keita, il est unique à ce niveau-là, quoi. Et Keita m'a dit d'ailleurs, si vous dites que ma photo c'est de l'art, ou plutôt il me dit. Si vous aimez ma photographie, c'est parce que j'ai tellement aimé être photographe et j'ai tellement voulu donner de mes clients la plus belle image que je sais que mes photos sont belles et c'est pour ça que vous dites que c'est de l'art. Thank you.
À la recherche de Saïdou Keïta, le photographe. C'était un documentaire de Valérie Nivelon, mis en onde par Cécile Pompeani, avec la complicité de David Bachet à Bamako. Tous nos remerciements à Abdoulaye Keïta, Françoise Huguier, Erika Nimis, André Magnin, Jacques Goldstein et Céline Solignac. Plus d'infos sur notre page RFI.fr de la Marche du Monde. Podcastez cette émission, c'est la vôtre.
Mukerila ne dumele fe, mukerila. furuma fentele fene dumele fe iterile kana furuma o fentele fene dumele fe ikana demi ikana kasi ikana hame jarabi kam ikana demi ikana kasi ikana hame go jarabi koso mukerila jarabi mukerila ne dumele